Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h,
le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2 sur Canal Sud.
92.2.
Rencontre avec Hassen Belmessous autour de son livre « Petite histoire politique des banlieues populaires » paru aux éditions Sileps, le 11 mai 2022 à la librairie Terra Nova.
Merci d'être là, d'avoir renoncé au charme des terrasses ce soir avec cette chaleur. Alors, on est ravis en tout cas d'accueillir Hassen Belmessous qui vient nous présenter son dernier livre. Vous retrouverez d'ailleurs deux de ses anciens livres à la caisse. « Petite histoire politique des banlieues populaires » paru aux éditions Sileps il y a quelques semaines. Je remercie beaucoup Sissala Amokrane du Tacti Collectif, partenaire de certaines de nos rencontres, et donc qui nous accompagne sur celle-ci. Et nous, on les accompagne sur le festival Origine Contrôlée, qu'ils organisent depuis une bonne quinzaine d'années. Voilà, cette rencontre prend en place dans un cycle de rencontres qui est dédié à l'Algérie puis aux relations que la France et l'Algérie entretiennent depuis de nombreuses décennies. On a fait une vitrine, il y a une table aussi normalement qui est au milieu de la salle où vous retrouvez une sélection. Et la dernière rencontre de ce cycle, ça sera le 1er juin, mercredi, avec Mathieu Rigouste et Kaoutar Archi, qui viendra présenter la réédition de son livre « Un seul héros, le peuple » aux éditions Premier Matin de novembre. Voilà. Et puis, cette série de rencontres, cette vitrine aussi annonce un catalogue qu'on va sortir. Ce sera la troisième édition de notre catalogue et qui, cette année, aura pour thème ce dont je vous parlais, donc les histoires croisées de la France et de l'Algérie. Voilà, donc je vais passer la parole à Salah.
Non, merci à toi Fabrice, merci de nous avoir conviés à participer à cette rencontre avec Hassen Belmessous, c'est son dernier livre. Hassen Belmessous, nous on s'était vu, ça fait quand même une petite dizaine d'années, pour un autre livre qui s'appelait Opération Banlieue dans le cadre du festival Origine Contrôlée. Voilà, donc aussi quand tu nous as participé de nous associer, quand tu nous as proposé de participer à cette rencontre, voilà, c'est avec plaisir qu'on le fait. Alors là, on va être quand même un peu en marge de l'histoire algérienne, puisqu'on est quand même sur une histoire très, très française, mais peut-être par le biais de l'histoire de l'immigration, on pourrait faire des liens, voilà, et on est donc à la, je réfléchissais pendant que tu le disais, faisais la présentation, je crois que ça va être cette année la 19e édition du festival Origine Contrôlée, qui aura lieu cette année au mois de septembre. Donc, prenez date, et puis, voilà, on va faire assez simplement, je te propose de présenter un petit peu le propos de ton livre, cette histoire politique des quartiers populaires. Bon, beaucoup quand même à travers l'histoire de la décision politique, de la politique de la ville, de la politique du logement, mais aussi de la façon quand Fabrice a proposé cette rencontre, bon. On est en plein quand même. C'est intéressant d'être dans la période dans laquelle on est. On verra si on rentre dans cette discussion là, mais dans la période politique dans laquelle on est et la place que la question des quartiers populaires ils ont eu aussi dans cette campagne électorale, notamment autour de du vote des quartiers, du vote dit des quartiers. Alors, est-ce qu'on peut dire ça pour Jean-Luc Mélenchon? On a beaucoup dit que voilà qu'il avait fait l'essentiel d'une bonne part de son score dans les quartiers populaires est assez important. Mais bon, voilà, il y a peut-être quelque chose d'intéressant à discuter là-dessus pour se ramener dans l'actualité. Voilà, donc peut-être voir ensuite, moi peut-être je réagirai peut-être éventuellement un peu plus, mais en tant qu'acteur, militant, acteur associatif, militant pour l'égalité des quartiers et en même temps confronté à cette question des politiques publiques. Enfin, je sais qu'il y a une des choses qui m'a marqué, j'ai pas fini le livre, j'ai acheté la semaine dernière, mais d'emblée là, et dans un article qui m'avait marqué, c'était cette fameuse note là qui disait la note de la dernière chance
en 1983.
Donc une note de la dernière chance. Bon, là on est longtemps après quand même, et l'année prochaine ce sera le 40e anniversaire de la marche pour l'égalité et contre le racisme.
Et aujourd'hui c'est le 10 mai. 2022,
voilà. Le 11 mai.
Rappelez-vous, 10 mai 1980, c'était l'élection de Mitterrand.
Ouais. Donc voilà, je te laisse de suite prendre la parole, nous présenter.
D'abord, merci d'être venu. D'abord, d'où je parle, moi je suis chercheur, je suis auteur, on dit écrivain, mais je dis plutôt auteur. J'ai été journaliste jusqu'en 2003 dans la presse nationale. J'écris dans une revue depuis un moment que je considère plus à gauche que le monde diplomatique où j'ai écrit, qui s'appelle Esprit, comme quoi. Et je suis actuellement, depuis peu de temps, dans une commission du CNC à Paris. On m'a demandé d'être dans une commission d'aide à l'écriture de films de fiction, de non-fiction, de séries. Voilà. Et enfin, je suis en résidence, alors ils appellent ça d'artiste, moi je ne me considère pas comme artiste, à Montfermeil, à Clichy-Montfermeil. Après les révoltes de 2005, a été construite une démarche qui s'appelle les ateliers Médicis. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous avez sur Internet. C'est en fait l'idée, c'est toujours ces idées généreuses aller à l'équivalent de la Villa Médicis à Rome pour les auteurs en littérature, voire les artistes. C'était un peu cette idée de on va faire émerger des talents issus des quartiers populaires et blablabla et blablabla. Voilà. Donc je suis actuellement à Montfermeil, Clichy-sous-Bois. Ça ne fait pas de moi un spécialiste. Je ne suis pas un spécialiste des banlieues populaires. J'ai écrit 4 livres sur les banlieues populaires, mais mon livre précédent, c'était sur la gestion frontiste des communes, les laboratoires de la haine. J'ai écrit sur les villes riches aussi. Tout ça pour vous dire que pour moi, observer les banlieues populaires, les quartiers populaires uniquement de façon monolithique, en les aveuglant de tout l'espace qui les environne, c'est se tromper d'angle éditorial. Alors, ce livre, c'est mon dernier livre sur les banlieues populaires. Il est parti d'un constat. D'une campagne présidentielle à une autre campagne présidentielle, depuis 1995, les banlieues populaires, je dis banlieues populaires parce qu'en fait, on parlerait de quartiers populaires à Toulouse, puisque les grands ensembles sont dans la ville, à Marseille, les grands ensembles sont dans la ville, à Lille, à part l'île sud, Lyon, la Duchère. Mais globalement, les grands ensembles ont été construits ex nihilo après le décret de 58, donc entre les années 60 et 1970, lorsque en 1973, le ministre du Logement, Olivier Guichard, avait acté la fin de la construction des grands ensembles. Les grands ensembles, finalement, ont été construits. Je parle de ceux qui sont majoritaires dans des petites communes qui abritaient des villages, des centres anciens et qui ont vu émerger ces constructions assez monumentales. Donc, je reviens à mon propos. D'une campagne présidentielle à une autre, les banlieues populaires, les quartiers populaires ont formé finalement le point de tension et de crispation de la vie politique française. En 1995, quand on se remémore les débats, Jean-Marie Le Pen fait presque 4 millions de voix. Donc les banlieues populaires sont finalement vilipendées comme étant des lieux de violence urbaine, des lieux de forte immigration et des lieux finalement qui interpellent l'identité française. La campagne des présidentielles de 2002 ajoute un élément finalement discordant supplémentaire. Il s'est passé les attentats de 2001. Et donc, à ces éléments à charge, s'ajoute un élément supplémentaire qui est l'islam. Il y a toujours cette confusion islamisme, islam et terrorisme. La campagne de 2007 était différente. La campagne de 2012, finalement, ajoute encore un élément supplémentaire. Pas seulement parce que Mohamed Merah, c'est pas très loin d'ici, avait commis ces attentats, mais se pose la question des quartiers populaires, des banlieues populaires étant comme les lieux du grand remplacement identitaire. Renaud Camus ayant commencé à théoriser sur ce pseudo-processus dès le mi-temps des années 2000. Et enfin, à partir de 2017, donc, banlieue populaire égale terrorisme islamique, égale territoire de la violence urbaine, égale combat civilisationnel contre l'identité française, égale fin du contrat social républicain, et finalement, c'est l'anti-France. Donc voilà, je me suis... Donc je suis parti du postulat que qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé finalement à ce discours prépondérant et qui est repris pas nécessairement, pas seulement par l'extrême droite, qui est repris par une grande partie de la droite républicaine et par la gauche. Et donc je ne suis pas historien. Mais l'histoire a cette qualité-là, en ce sens que, finalement, quand on travaille sur des documents d'archives, les archives présentent cet intérêt-là, c'est-à-dire qu'ils racontent l'histoire des politiques publiques. Qu'est-ce qui fait qu'un État, une collectivité locale, a engagé une politique qui s'appuie toujours sur une orientation idéologique. Les politiques publiques, elles livrent toujours en creux l'idéologie qui la porte. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui fait que, comment les choses se sont organisées ? Donc, je me suis intéressé à une période très particulière. Après, on peut discuter, on peut même contester mon travail. C'est pas gênant. Dès lors qu'on reste dans un débat d'idées, et après il y a du factuel. Quand des archives livrent des documents, on ne peut pas contester des documents. Sinon, c'est comme si je vous disais « ça c'est noir » et vous me rétorqueriez « ben non, c'est bleu ». J'ai commencé avec une première date qui est 1975. 1975, c'est la date à laquelle a été lancée la politique de la ville en France à travers un dispositif qui s'appelle Habitat et Vie sociale. C'était sous un gouvernement de droite. Le président, c'était Valéry Giscard d'Estaing. Et je me suis arrêté à 2005, avec les dernières et les seules révoltes sociales importantes en France. Parce que je considère qu'ensuite, la désillusion, le désenchantement, il ne se passe plus rien, si ce n'est un abandon pur et simple, un abandon politique des quartiers et des banlieues populaires. Donc j'ai travaillé, j'ai pris aussi le parti, parce que ce n'est pas un travail exhaustif, de travailler dans les lieux les plus médiatiques. Alors il y en a que je connais parfaitement, parce que je fais de l'enquête sociale et de la recherche. La Grande Borne à Grigny, dans l'Essonne, les 4000 à la Courneuve, la ZUP de Vaux-en-Velin, les Minguettes à Vénissieux, Dreux, parce que j'y avais travaillé au Chamard, le Val-Fouré, évidemment, à Mantes-la-Jolie, puisque... en fait, c'est un... et d'autres lieux, mais bon, il s'agissait pour moi de voir, parce que ces lieux-là portent en eux finalement une histoire à charge, la réalité de ce qui s'y est déroulé et de ce qui s'est finalement de la façon avec laquelle les choses ont évolué. Et j'ai sectorisé mon propos. Alors, je ne vais pas vous livrer tout, parce que ce serait finalement... dans ce cas-là, je fais une lecture publique de mon livre. Il n'y a pas d'intérêt. J'ai sectorisé, c'est-à-dire que je me suis attelé à des thématiques bien précises. D'abord, le logement social. Ensuite, je me suis attelé à la question de l'islam. Ensuite, à la question de la police. Ensuite, à la question de la politique de la ville. Ensuite, à la gestion par la droite de ces territoires-là. Et ensuite, à la gauche, par la gauche. Il faut savoir que, par quelque chose de totalement magique et mystérieux, on a toujours considéré que les quartiers populaires, les banlieues populaires, étaient une affaire de gauche. Je ne sais pas qui a inventé ça. Qui a présupposé que ces territoires étaient des lieux finalement qui ont finalement une sorte d'appétence, du moins la gauche a une appétence pour ces quartiers-là, puisque quand on observe encore une fois cette période-là, la gauche a gouverné aussi longtemps que la droite, et la droite n'a pas été inactive durant ce temps-là. Et je me suis également intéressé à la politique de la ville. Alors, juste sur des questions de modalité, mon premier problème, c'est que en France, les archives sont réglementées. C'est-à-dire que chaque élu, qu'il soit élu local ou national, doit rendre au service des archives tous les documents, tous les courriers, tous les écrits dès lors qu'il quitte sa fonction. S'il ne le fait pas, la loi... doit être jugé. Je dis il doit parce que la réalité n'est pas celle-là. Et il risque une condamnation de 3 années de prison et je ne sais plus 400 000 euros d'amende. Or, à Mantes-la-Jolie, par exemple, sous la mandature Pierre Bédier, entre 1995 et 2010, il n'y a rien aux archives de Mantes-la-Jolie. Rien. Dans les communes communistes, c'est pareil. À Vénissieux, par exemple, il y a très peu de choses. Tout ça, ça pose question. D'abord, ça pose des questions sur la mémoire politique qu'on doit avoir. Parce que les archives, ça participe d'une vie démocratique. Tout le monde doit pouvoir aller consulter des archives de façon à voir ce qui organise finalement une politique publique. Parce que ces documents-là, ils racontent de l'intérieur qu'est-ce qui fait qu'une décision a été prise et qu'est-ce qui fait qu'une décision n'a pas été prise. D'accord ? Et dès lors que je constate que les documents d'archives ont été soit pilonnés, soit substitués par des élus, ça veut dire qu'on soustrait à la vie démocratique la réalité politique d'un mandat. On le voit. Après, il y a des dérogations. On sait que sur des sujets sensibles, sur la question de la police, par exemple, il faut attendre 70, 80 ans. On l'a vu avec la guerre d'Algérie, par exemple. Il a fallu attendre Jospin pour que, quand il était Premier ministre, à la fin des années 90, pour que certaines archives ouvrent, pas toutes. D'accord ? Mais s'agissant des quartiers populaires, et c'est le scandale, un des scandales, c'est que les archives sont extrêmement restreinte. Après, j'ai réussi à trouver des documents. D'abord, il y a quand même quelques documents, mais des documents que j'ai pu obtenir parce que la politique de la ville, c'est une politique intercommunale. Donc, quand une ville se débarrasse, quand dans une ville il n'y a pas d'archives, dans une autre ville qui est peut-être moins concernée, je pense par exemple au département des Yvelines, le département des Yvelines, vous avez Versailles, Rambouillet, etc. Mais vous avez aussi Trappes, Mantes-la-Jolie, voilà. Eh bien, dans les archives interdépartementales, j'ai trouvé des documents se rapportant, parce qu'ils étaient aussi destinataires de ces documents-là. Alors, d'emblée, je dois dire que les quartiers populaires, c'est qu'une affaire française. C'est pour ça que c'est drôle d'être dans un cycle sur l'Algérie, et tu as bien fait de faire cette remarque. Mais après tout, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas une affaire étrangère, c'est une affaire uniquement française, les quartiers populaires. Les quartiers populaires sont finalement la mauvaise conscience de la démocratie française. Parce que qu'est-ce qu'on constate ? Au départ, ils étaient interdits d'accès, je parle des logements sociaux, aux populations immigrées. Et toutes les populations immigrées. Il y avait évidemment des endroits qui étaient contingentés. Je pense par exemple au premier grand ensemble français à Sarcelles, où vous aviez une allée pour les Italiens, une allée pour les Portugais, une allée pour les populations des Tom-Tom, parce qu'ils ne sont pas considérés comme français, quand bien même ils sont français, une allée pour les Marocains, une allée pour les Algériens. Mais tout ça, c'était des réduits. Et donc, au départ, les quartiers populaires, les banlieues populaires, étaient destinés uniquement aux classes moyennes françaises. On était dans l'après-guerre, il s'agissait de reconstruire le pays, et dans la France moderne, il n'était pas possible qu'une ville comme Paris, par exemple, mais on peut imaginer, je suppose... Alors, je ne veux pas faire du régionalisme à chaque fois pour dire, voilà, raccrocher un propos en disant...
Je le ferai pour Toulouse.
Non, voilà, parce que hier j'étais à Cahors et quelqu'un me dit, désolé, mais je ne vais pas inventer ce que je ne sais pas. Dans cette France hyper moderne, il s'agissait de lutter contre l'habitat insalubre, ce qui est une ambition noble. Mais les limites de l'ambition, c'est que quand on en finit avec les bidonvilles de Nanterre, ça ne signifie pas que les populations algériennes qui habitaient dans les bidonvilles de Nanterre étaient hébergées à la cité Pablo Picasso à Nanterre. D'accord ? Il y a eu comme ça, durant de longues années, une stratégie de tous les partis politiques. Tous les partis politiques. C'est-à-dire que non, le Parti communiste n'a pas été un parti généreux. Quand on travaille sur des archives, on observe que était déjà évoqué un seuil de tolérance à l'accès à ces logements sociaux aux populations immigrées. À l'époque, il n'y avait pas d'origine immigrée. D'accord ? Et c'est intéressant parce que finalement, ça permet de reconsidérer l'histoire. Et déjà, j'avais publié un livre en 2006 sur le mythe de la mixité sociale qui m'avait à l'époque valu... On sortait après des révoltes, mais bon, c'était le hasard. Hein. Les livres, on les fait, c'est des temporalités longues, qu'ensuite, ça résonne avec une actualité. C'est très bien, mais il ne faut surtout pas que le livre, là, c'est l'ancien éditeur qui parle, soit fait pour l'actualité, parce que sinon, ils n'ont, de mon point de vue, aucun sens. Et donc, effectivement, on se rend compte que... et je réabonde dans ce sens-là, il n'y avait pas de mixité sociale. quand des gens vous disent, déjà à l'époque, ils me disaient, mais si, à l'époque, on vivait bien, il y avait des Portugais, il y avait... Oui, d'accord. Mais il y a un imaginaire populaire et il y a une réalité sociale. D'accord ? J'ai pas dit qu'il y avait... Il y a des, je prends par exemple au Minguette, il y a des allées d'immeubles qui étaient totalement interdites aux populations arabes. Et c'est dans les archives, les choses sont écrites telles quelles. D'accord ? Donc, il n'y avait pas de mixité sociale. Le basculement, c'est la crise énergétique. C'est aussi une orientation idéologique. Dans la France moderne, le grand ensemble et sa valorisation du collectif ne collaient pas avec cette idée que la France devait aussi, pour compter, s'intégrer, j'allais dire, dans l'économie libérale. Or, l'économie libérale, elle ne s'inscrit pas dans du grand ensemble et ses valeurs collectives, elle s'inscrit dans ce qu'on appelle l'accession à la propriété. Donc, fin des grands ensembles en mars 1977, et déjà quelques mois avant, le ministre, pour le coup, du logement, Albin Chalandon, lance ce qu'on appelle à l'époque les chalandonnettes, c'est-à-dire cette idée que voilà, il faut construire beaucoup de maisons individuelles. Or, les grands ensembles, quand ils ont été construits, avec des budgets qui étaient importants. Et c'était des crédits qu'il fallait payer. Hein. On parle d'annuité. Et donc, pour finalement éponger ces annuités, il a fallu accueillir des populations qui étaient neutralisées pendant un moment. Alors, entendons-nous bien, le français, venu du Languedoc, du Gers, de l'Auvergne, ou je ne sais pas quoi, qui était petit Jean. Lui aussi, il n'était pas discriminé pareillement, mais lui aussi, il avait des difficultés à se loger. Donc, les classes populaires, finalement, ont pu intégrer des grands ensembles, évidemment, avec le regroupement familial, à partir de 1974, les familles immigrées du Maghreb ont pu, d'Afrique subsaharienne, ça arrive, mais beaucoup plus tard, ont pu emménager dans ces grands ensembles. Mais ils n'étaient pas socialement mixtes encore. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont été invités, hein, on leur a permis d'emménager, mais on les a concentrés dans certains immeubles du quartier. C'est-à-dire qu'on considérait que, d'accord, il faut les loger, parce qu'il faut quand même être humain, mais en même temps, les pratiques sociales, les pratiques civilisatrices ne sont pas les mêmes. Donc, on va finalement, ces gens-là sont quand même assez folkloriques, ils sont assez bruyants, ils ont des enfants qui courent partout. Vous lirez, je cite, des courriers d'organisation. Hein. Puisque ces individus ont une expérience tribale de la vie quotidienne, alors on va les concentrer dans certains endroits. Effectivement, les Minguettes, par exemple, le quartier des Minguettes, les Minguettes, c'était à ce moment-là plus de 30 000 habitants. D'accord, c'est sur le plateau de l'Est lyonnais, c'est dans l'Est lyonnais. Donc vous aviez Berlier à l'époque, donc RVI ensuite, donc des milliers d'ouvriers maghrébins qui venaient travailler. Hein. Et donc, au Minguette, sur cet immense plateau, vous aviez des allées qui étaient invivables pour tout le monde. Invivables pour tout le monde. D'accord ? Donc, pas mixte. Avec un peuplement discriminatoire. Et on en arrive finalement avec parce que la crise économique était extrêmement forte, à un moment, une sorte de consensus politique sur ce que le devenir des grands ensembles, c'est d'être l'adresse finale des populations qu'on ne veut pas. Et donc, tous les indésirables ont été logés dans ces lieux-là. Et on voit d'ailleurs comment les populations françaises... quand moi je dis français, c'est-à-dire que je ne suis pas... on est avant 80, d'accord ? On est avant 82. Parce que les premiers... Moi, je fais partie des premiers qui sont français. Je suis né en 1964. Et c'est après 63 que les gens ont pu devenir français. Vous étiez français. D'accord ? Du moins, on n'était pas... Ce sont les lois Pasqua qui ont changé les choses parce qu'il fallait faire la... Voilà, il fallait revendiquer, il fallait solliciter. Hein. Rappelez-vous, les lois de Pasqua 86 et ensuite en 93-94. Mais voilà, il n'y avait pas cette automaticité-là. Et donc, on est dans des lieux qui sont... pensés, vécus comme des quartiers immigrés. Quand vous lisez la presse de l'époque, lorsque il y a les premières révoltes en France dans le quartier des Minguettes, je cite souvent ce quartier parce que c'est de là que tout est parti à chaque fois. Dans l'Est lyonnais, eh bien, vous lisez, que ce soit le Figaro ou le Monde, eh bien, on parle de quartiers immigrés. Vous voyez, définir l'usage d'un terme, finalement, il ne fait pas que raconter une histoire. L'usage d'un terme aussi, il a un usage de disqualification. C'est-à-dire que selon le terme que vous allez utiliser pour identifier des individus ou une situation, vous allez finalement figer la situation, réduire les individus à être que ce que le terme sous-entend. Donc on dit quartier immigré, c'est-à-dire que ce ne sont pas des quartiers français. Alors, ça, c'était le logement social. J'avance un peu, mais en même temps, je ne souhaite pas que ce soit une sorte d'inventaire à la Prévert. C'est quand même un travail sérieux. Je passe assez vite sur la responsabilité des partis de gauche et de partis de droite. On ne peut pas comparer... quand je dis la gauche, c'est-à-dire que je distingue la gauche de gouvernement, c'est-à-dire le PS, quand bien même il y a une union de la gauche en 1981, le Parti communiste n'avait que 4 ministères. Donc il n'était pas ses marges de manœuvre en matière de décision politique à l'échelle nationale étaient assez réduites. Quand il arrive au pouvoir en 1981... est un parti bien plus progressiste que le Parti communiste. Par exemple, la question du droit de vote des étrangers était davantage portée par le Parti socialiste unifié, hein, les rocardiens, hein, pour dire les choses, que par le PS, du moins le parti mitterrandien ou chevènementiste. Pas portée par le Parti communiste. Le Parti communiste... Il y a des historiens qui ont travaillé, par exemple, sur le positionnement des communistes pendant la guerre d'Algérie. La position du Parti communiste s'agissant du droit de vote a toujours été une position contre, non pas parce qu'ils ne sont pas français, mais parce que ces gens-là sont amenés à repartir chez eux. Donc il ne faudrait surtout pas leur donner ce pourquoi ils ne sont pas venus. Il y a un cynisme de raisonnement. Donc, par contre, le Parti socialiste, qui est un parti davantage, convaincu par l'éducation populaire, ils sont là. D'accord ? Et surtout, le Parti socialiste avait peu de mairies qui abritaient des quartiers populaires. Mais il y avait cette idée progressiste. Donc, une partie du Parti socialiste a défendu le droit de vote des étrangers. Pas toutes. Je ne reviens pas sur ce chiffon rouge à partir de 1983, quand le Front National émerge et que Mitterrand, mais pas que lui, finalement, a joué de cette carte-là. La faillite aussi du Parti socialiste, c'est que, en plus d'avoir failli sur la question du droit de vote, il a failli sur la question des contrôles d'identité. Je cite beaucoup d'éléments là-dessus. Il y a un chapitre sur la police, mais je préfère l'évoquer maintenant. On pourra, dans le débat, parler de la police, si vous le souhaitez. Quand le Parti socialiste gagne la présidentielle, il y a donc 39 ans, santé, il y a cette idée qu'il faut remettre en cause le pouvoir policier en matière de contrôle d'identité. La police française est une police... Parce que d'une part, pour la gauche, la police française est une police, finalement, qui a encore dans ses éléments des anciens de l'OAS, qui a encore beaucoup dans, ses, dans son corps constitué des policiers pieds noirs. Je reviens à mes minguettes, parce que l'histoire, finalement, elle est très intelligible. Beaucoup de policiers qui travaillaient à Vénissieux étaient d'anciens, étaient des policiers qui exerçaient déjà dans l'Algérie française. Et donc, quand la gauche gagne, le Parti communiste, au départ, une partie du Parti communiste a voulu s'est attelé à remettre en cause le pouvoir policier en matière de contrôle d'identité. Et très rapidement, il y a eu une forte, évidemment, opposition de la police, de la droite dans l'opposition, et il y a eu un basculement. Basculement qui a été opéré. Rappelez-vous, à ce moment-là, le ministre de l'Intérieur, c'était le maire de Marseille, Gaston Defferre. Et Gaston Defferre a toujours dit... je soutiens mes policiers, je cite d'ailleurs ici, hein, après une bavure policière, quoi que les faits diront, je serai toujours derrière la police nationale. Quand bien même les faits révèlent finalement que les policiers en question ont commis un acte délictueux. Et je dis ça parce que quand la gauche, avant qu'elle arrive en 81, défend l'idée de revoir les contrôles d'identité, il faut se rappeler aussi que dans les années 60 et 70, et là je cite aussi mes sources, hein, il faut toujours citer ses sources, les crimes racistes, policiers ou pas policiers, ont été extrêmement nombreux dans les années 60-70. Extrêmement nombreux. Et les policiers ont... très, très majoritairement ont été finalement disculpés. Les non-lieux étaient très, très fréquents. Une balle dans le dos, non-lieu. Mais tout ça, c'est vous trouvez dans le livre et vous irez sur Internet. Voilà. Et donc, on est quand même dans un moment extrêmement précis, quoi. Et donc, arrive... Les révoltes de l'été 81, la gauche gagne le 10 mai, et durant l'été 81, les jeunes des quartiers populaires, alors quand moi j'utilise jeunes, je dis bien aux jeunes de Montfermeil, parce qu'ils me disent « Ah, les jeunes », je dis « Mais c'est qui les jeunes ?» Oui, mais les jeunes, non, c'est qui les jeunes ? Les jeunes, c'est qui ? Moi, je ne sais pas. Jeunes, ça a un sens. C'est pas... Oui, mais les jeunes, tu veux dire les Arabes, et voilà. Oui, seul... non. Donc, ce n'est pas des jeunes, c'est des jeunes arabes ou des jeunes... voilà, il faut... je pense qu'il faut prendre les gens... Il faut prendre les mots au pied de la lettre pour pousser les individus à les épurer, qu'on utilise un terme dans son vrai sens et qu'on, encore une fois, on ne le disqualifie pas. C'est comme le mot racaille. Donc, je reviens à ça. Ils prennent au mot, c'est le cas de le dire, le parti, l'Union de la gauche, en disant, voilà... vos promesses d'égalité, on veut y croire. Et donc, les révoltes de cet été, mois de juillet 81, elles étaient contre les violences policières, elles étaient contre l'emprise policière sur la vie de la cité. C'est pas seulement les violences, c'est l'emprise, c'est comment la police contient la vie de la cité. Et il y avait aussi, quand on consulte les archives, émerger un peu cette idée d'égalité. Puisque la gauche, elle a vendu des promesses d'égalité, eh bien, chiche, donnez-nous de l'égalité. Et c'est pour ça qu'on arrive à l'unique marche civique française qui a eu lieu en novembre-décembre 1983. Quand je dis unique, c'est parce qu'il n'y a jamais eu sous la Ve République une marche civique. Ce que les médias ont appelé la marche des beurs, mais c'est un non-sens. L'intitulé, c'est marche contre le racisme et les violences policières et pour l'égalité. Traduire ça par Marche des beurs, c'est déjà folklorisé et encore une fois en faire une affaire étrangère, une affaire d'indigène, quoi. Or, c'est pas ça. Et donc, cette marche, et je relate, parce que, oui, je vous ai dit que c'est beaucoup un travail sur des archives, mais après, c'est comme ça, quoi. La chance que j'ai, c'est que ça fait quand même un certain nombre d'années que je travaille sur les questions urbaines, et donc, eh bien, on fait ce qu'on appelle des réseaux. Et donc, j'ai des anciens hauts fonctionnaires qui ne sont plus en poste, eh bien, qui m'ont livré de l'intérieur l'action politique qu'ils ont menée et le contexte, j'allais dire, gouvernemental dans lequel elle s'insérait. Et donc, les acteurs racontent que tout est parti de violences policières déjà, puisque la gauche avait failli à 80 à répondre. La gauche, elle répond par des opérations anti, du moins, étaient chauds. On va leur faire faire du sport avec les policiers, du motocross, aller au Club Med, etc. Et on va repeindre les façades des immeubles à une demande égalitaire, ce qui montre le cynisme, combien il était absolu. Et ces jeunes-là, d'où, voilà, 2 ans après, finalement, ils marquent une volonté de à nouveau se faire entendre. Et donc, tout ça, c'est dans le livre, mais bon. Et un jour, ils sont, voilà, ils vont voir un film avec... avec Christian Delorme, qui était prêtre, et ils vont voir ce film qui a été beaucoup médiatisé de Richard Attenborough sur Gandhi. Et donc, bah, pourquoi pas nous? Et si on faisait le marche civique? Ça part de là, comme ça. Après, il se passe des événements, etc. Mais bon. Et donc, elle est partie de Marseille. Il fallait bien partir d'un endroit. Et donc, elle monte à Paris. Et quand ils arrivent à Paris, donc c'était vraiment une marche importante. Hein, ils découvrent d'une part qu'ils sont des beurs. Ils connaissaient absolument pas le mot. Et deuxièmement, que finalement, Paris sur beurre, c'était le titre de Libération. Et bien finalement, un événement civique devient un événement anecdotique. Quand je dis anecdotique, c'est-à-dire qu'en matière d'information, dans le journalisme, on dit souvent qu'une information chasse l'autre. Or là, c'était un mouvement important quand même dans la vie démocratique française. Finalement, titré Paris sur beurre, ça veut dire que finalement, on identifie quelque chose qui mobilise politiquement à quelque chose qui folklorise ceux qui y ont participé. Et en fait, tout ce qui a mis en mouvement. Voilà. C'est la fin de l'illusion politique dans les quartiers populaires. Ça, c'est moi qui le dis. Depuis 1983, cette idée que finalement une marche, une mobilisation populaire peut donner des résultats. On n'a pas mesuré à ce moment-là ce que ça voulait dire. Et je cite, Delorme dit, quand les jeunes sont rentrés, ils avaient des copains qui étaient là, qui leur disaient, alors, qu'est-ce qu'il y a, Marien? Mais t'as rien gratté? T'as rien eu? Rien gratté, ça veut dire, mais t'as rien? Quelle rétribution? Gratté, ça veut dire que, de toute façon, on savait que politiquement, tu n'aurais rien, mais ça t'a rien rapporté à toi? Bah non. Et il me dit, ça a été terrible pour cette génération-là parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle a été ridiculisée et qu'elle était finalement réduite à rien, quoi. À rien. Juste pour finir sur ce point-là, c'est pour ça que je dis que c'est le dernier élément, le dernier événement politique. Il y a eu quand même, et c'est comme ça que moi j'avais traduit en faisant une recherche en 2000 sur ce qui s'est passé en 2005. C'était une autre révolte. 2005, c'était une révolte à la fois politique, comme en 83, sauf que à cette révolte politique, c'est adjointe une révolte, j'allais dire, de colère et de rage. En 83, on ne brûle pas, on ne casse pas. En 2005, on dit, on revendique. Mais il y a tellement urgence, tellement d'étouffement que pour échapper à ça, eh bien, la colère, c'est le dernier sursaut, j'allais dire, d'une énergie vitale. 3 semaines, c'est long. Et ils ont perdu, parce que ça n'a pas été entendu comme politique, parce que ce n'est pas seulement Nicolas Sarkozy, premier ministre de l'Intérieur. Ça fait plaisir à ceux qui veulent l'entendre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le monde politique français, le nôtre. Comment il a orienté, finalement, avec les médias populaires, dans un sens délinquant. À partir du moment où vous perdez la bataille, cette bataille-là, et qu'on vous considère non pas comme des citoyens qui revendiquent finalement une réciprocité, une qualité de père, mais qu'on vous réduise à une identité délinquante, vous avez perdu. Et donc, et on a fait des luttes contre la discrimination. Moi, j'ai même participé, j'ai fait une recherche sur la discrimination à l'accès dans un livre, non, il n'est pas cité ici, au logement privé. On a imaginé défendre la diversité, voilà. Et quelqu'un me disait dans une des premières présentations, oui, mais le mouvement Black Lives Matter, c'est oui, effectivement, oui, ou les gilets jaunes, etc. Oui, si ce n'est que ils ont appris à leurs dépens qu'ils étaient seuls. Il n'y a eu aucun syndicat qui a soutenu les révoltes sociales de 2005. Il n'y a eu aucun parti politique qui a soutenu les révoltes sociales de 2005. Ça, c'est ravageur, parce que ça veut dire que, en plus de la désillusion politique, il y a du désenchantement. Alors évidemment, j'embraye sur... voilà, donc, et à ce moment-là, ce qui a été finalement, il y a eu une rupture de l'idée égalitaire. Et dans ce mouvement finalement néolibéral de la société française, hein, dans le sillage des sociétés anglo-saxonnes, vous avez... il s'est passé quelque chose de très très important, c'est-à-dire que l'État social a mis en place finalement ce qu'il appelle des dispositifs d'égalité des chances. C'est très intéressant cette notion-là. C'est-à-dire que la notion d'égalité, c'est une notion qui est absolue. Quand bien même, on peut dire utopiste, illusoire, etc., mais quand on revendique l'égalité des conditions, donc on dénonce les inégalités de traitement, finalement, on acte que le contrat social, c'est un contrat qui destine à finalement faire des uns et des autres les égaux. Par contre, égalité des chances, c'est ce qui apparaît dans le plan Espoir banlieue porté par Fadela Maramé, qui était davantage un programme qui était un programme de la droite, concédé par la gauche aussi, hein, puisque ça n'a pas été depuis ça n'a pas été contesté. Hein. C'est cette idée que, effectivement, la République dit vous êtes humilié, vous êtes méprisé, vous êtes en proie à des discriminations dans l'accès au logement, et quand bien même vous réussissez, etc., il y a cette chose-là qui est quand même indépassable, qui est le plafond de verre. Mais on va quand même vous aider. On va vous donner des chances de réussir. Des chances. La chance, c'est la loterie. Le contrat social, ce n'est pas de la loterie en République. D'accord ? La loterie, c'est je lance un dé et ça tombe une pièce et ça tombe d'un côté ou de l'autre. Or, ça, c'est, on n'est plus finalement dans le contrat républicain. On est dans quelque chose finalement qui concerne des individus comme étant dans un espace concurrentiel. Et on estime que les individus, finalement, doivent être davantage méritants. C'est ce que Nicolas Sarkozy dit, d'ailleurs, je le cite, quand il dit, quand il présente Espoir banlieue, il dit « Je remercie Fadela », etc. Ce qui était une première dans l'histoire de la République. C'est pas Fadela Amara, secrétaire d'État, etc. Non, c'est Fadela. Vous voyez la différence ? Dire Fadela... Ce n'est pas la considérer comme un membre du gouvernement. Ce n'est pas la considérer comme quelqu'un qui participe du régalien. C'est considérer que... Comment il dit ce journaliste-là, entre guillemets, du média, l'arabe de service ? Je dis ça à charge contre le journaliste. Hein. Je suis très clair, moi, là-dessus. Voilà. C'est comme quand Nicolas Sarkozy avait dit quelques années avant, Aïssa Dermouche, quand il était préfet, le premier préfet, le préfet musulman. C'est-à-dire qu'il est préfet, certes, mais préfet musulman, quoi. Voilà. Donc, l'égalité des chances est l'acte, la fin de l'idéal égalitaire en faveur, à destination des habitants des quartiers populaires. C'est fini. C'est terminé. C'est pas remis en cause, hein. Surtout pas. Alors, l'islam, je vais aller très vite. C'est pas simple, hein. Je dois faire une intervention à Vaux-en-Velin et en plus, je connais un des élus. Il me dit, écoute, il va y avoir un problème quand tu vas aborder l'islam. Alors, il se trouve, il faut savoir que j'ai fait une recherche sur la résilience sociale en 2015. Résilience sociale, c'est comment des individus... Qu'est-ce qui fait que des individus, finalement, je fais cette recherche. Je commence la recherche début janvier 2015, attentat de Charlie Hebdo une semaine après, et je finis, à fin d'année, attentat de Stade de France et du Bataclan. Après, on fait de la recherche, point. Et donc, c'est comment est-ce que des individus, finalement, qui s'estiment... qui estiment que leur trajectoire sociale, professionnelle, etc., a été finalement contenue en raison de leur identité, de leur origine. Et donc, voilà. Qu'est-ce qui fait que... pourquoi est-ce qu'en Seine-Saint-Denis, vous avez le plus grand nombre de conducteurs d'Uber ? Je conduis Uber parce que je suis mon propre patron. Sinon, je n'ai pas de boulot. Ou j'achète une maison alors que j'ai des moyens, j'ai réussi socialement. Parce que si je veux louer cette maison, eh bien, je serai en but à des discriminations. Donc l'acheter, au moins le capitalisme. Voilà. Ça, quand j'ai dit ça hier aux gens à cœur, ça les a un peu hérissés. Mais c'est ça aussi le cynisme sur soi-même. Le capitalisme, et pour avoir fait des conférences aux États-Unis pendant 10 jours en avril, là, le capitalisme, et non pas que les habitants des quartiers populaires, ce qui fait que, et c'est ce qui met en difficulté, hein, les associations, qui se disent on est à gauche, etc. Il faut quand même qu'ils comprennent, etc. Or, quand vous êtes désenchanté, désillusionné, au moins le capitalisme, il ne vous raconte pas d'histoire. Il donne l'égalité des chances. Après, c'est du cynisme. Je ne suis pas capitaliste en disant ça. Ça, c'est moi, individu, je ne suis pas capitaliste. Mais par contre, ce que j'observe dans le capitalisme, c'est que le capitalisme, finalement, est considéré comme le vrai pied d'appui. Et quand j'avais travaillé sur ces dispositifs, ces dispositifs contractuels entre certains lycées et Sciences Po Paris, je faisais des entretiens avec des jeunes qui avaient réussi l'entrée à Sciences Po Paris, mais il doit y avoir un lycée à Toulouse, j'en suis sûr, qui a contractualisé avec... Voilà, à Vaux-en-Velin, il y avait un lycée. Et donc... pour moi, Sciences Po Paris, c'est une école de culture générale. C'est une école, finalement, qui permet de se projeter ailleurs. Et je me suis rendu compte que pas du tout pour ces jeunes-là. Rentrer à Sciences Po Paris, c'est d'abord, un, faire une école qui est reconnue. Et deuxièmement, c'est ensuite se lancer dans un business plan. Aucun d'eux ne m'a dit « je veux faire un doctorat », aucun d'eux... Après, c'est pas, encore une fois, mon propos, il n'est pas moralisateur. Je dis juste qu'ils ont vu que Sciences Po Paris était un échappatoire, mais ils ne sont pas illusionnés à ce point qu'ils se disent que cet échappatoire sera suffisant. Non, quand bien même on fait Sciences Po Paris, il y a un moment, il faudra de toute façon revenir dans le champ de l'économie, parce que ce champ de l'économie-là, il va nous permettre de réussir socialement. Vous voyez le raisonnement qui est assez dramatique, parce que la discrimination positive dans l'accès à Sciences Po Paris n'a pas été imaginée par Richard Descoings et les autres, hein, sur le modèle américain, comme étant finalement une façon de contourner la discrimination. C'était se dire, voilà, Sciences Po va s'ouvrir à la diversité, c'est comme ça qu'ils disent, la population française. Benetton peut dire, je fais de la diversité, mais les écoles républicaines, elles disent pas, je fais de la diversité. Donc l'islam... Il n'y a pas d'emprise de l'islam en France. Il n'y a pas d'emprise de l'islam en France. Il y a des tentatives islamistes. Là, pour le coup, je fais la différence, moi. D'accord ? Dans certains coins. Oui, des salafistes, etc. Quand je vois au Val-Fouré, quand je vois, d'accord, des tentatives. Mais le salafisme ne prend la, de place dans un territoire, dans un espace public, que là où il n'y a pas d'espace politique. Là où il y a abandon du politique, l'espace public, ce n'est pas un espace en déshérence. Il est nécessairement occupé par d'autres acteurs sociaux. D'accord ? Et c'est intéressant quand on regarde. Quand vous travaillez sur les archives, vous vous rendez compte que l'islam n'existe absolument pas dans les quartiers populaires. Et je cite d'ailleurs la première mosquée qui a été construite en France, du moins récente, c'est la mosquée à Mantes-la-Jolie, poussée par des Marocains, etc. Paul Picard, ancien instituteur, pied noir d'Algérie, etc. Bon, voilà, il donne le PS1. Il raconte comment les gens de l'OS avaient voulu plastiquer la mosquée à la fin des années 70. Vous voyez comme quoi tout ça, c'est... Quand on dit que les choses ont basculé, non, c'est une vieille histoire française, malheureusement. Et donc, et Abdelaziz Al-Jawahiri, qui est aujourd'hui le responsable de la mosquée de Mantes-la-Ville, il m'explique, il me dit, quand ils ont voulu inaugurer, selon un rite musulman, alors je ne suis pas spécialiste, mais vous verrez dans le livre, il fallait un certain nombre de fidèles. Valfouré, 30 000 habitants. Il n'y avait pas suffisamment de musulmans pratiquement valfourés pour que cette inauguration elle soit organisée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les musulmans du Valfouré, c'était des gens qui pratiquaient à certains moments de l'année. Effectivement, ils faisaient le ramadan. Effectivement, ils n'étaient pas nombreux à faire le pèlerinage, pas seulement pour des raisons de coût. C'est-à-dire qu'ils étaient musulmans, mais davantage en Algérie qu'en France. Parce que l'assimilation, c'était ça. Et donc, c'était plutôt l'islam des caves aussi. Hein. Il faut aussi observer les choses telles qu'elles étaient. L'islam n'était pas une religion française. Quand l'islam a commencé, je ne parle pas d'islamisme, hein, l'islam a commencé à apparaître dans l'espace public à la faveur d'un événement. Vous devez, pour ceux qui sont, voilà, ceux qui s'intéressent à cette question, lorsque Montfermeil, en 1989, trois jeunes marocaines rentrent dans un collège avec le voile. Donc ça a fait cette polémique. C'était Jospin qui était ministre de l'Éducation. Je crois que c'était Montfermeil. Mais tout ça, vous verrez dans le livre. Donc voilà. Et comment est-ce que l'État a voulu négocier ça? Alors que c'était une affaire française, les choses ont été négociées avec le consulat du Maroc. Donc déjà, l'islam n'est pas une religion dans l'espace français, c'est une religion finalement qu'on va négocier avec un État étranger, puisque ces gamines ont des parents marocains, à vérifier s'ils étaient réellement de nationalité marocaine. Donc on va finalement négocier avec le consulat du Maroc, qui finalement va convaincre les gamines, écoutez, retirez-le, pas de problème, etc. Attention, sinon le roi va vous... Hein. Bon. Donc, l'islam... Alors, plus sérieusement, c'était sérieux, ça. L'islam va commencer à apparaître comme une région, apparaître dans l'espace public, d'une part, lorsqu'il y a eu la guerre en Irak, en 1990, après l'invasion du Koweït. D'accord ? Et surtout... tous les acteurs désillusionnés de la marche contre le racisme et pour l'égalité se sont dit, il y avait beaucoup de débats à ce niveau-là, puisqu'on nous refuse notre qualité de Français, on refuse notre citoyenneté française, eh bien, notre identité, elle est française et musulmane. On voit de plus en plus de jeunes qui finalement pratiquent, qui sont sensibles à cette question-là. Après tout, nos parents, qui triment, c'est très difficile pour eux, etc. S'inscrire dans ce champ religieux-là, c'est aussi une façon d'hériter en tant qu'enfant, fils, fille, de cette tradition-là. Alors, c'est pas massif, mais ça se construit socialement comme ça. Et surtout, ce sur quoi je veux insister, l'État français les années 90, au début, c'était, il y avait beaucoup de révoltes dans les quartiers. Ce que l'État, ce que les médias appelaient les violences, les émeutes. Émeute, ça a un vrai sens dans les pays anglo-saxons. En France, quand vous entendez le mot émeute, traduisez-le comme par casse, désordre urbain, violence. Alors qu'en fait, cette notion, dans le sens anglo-saxon du terme, elle traduit aussi une mobilisation, un investissement politique. C'est-à-dire, je trouble l'ordre public, pour utiliser cette expression-là, parce que je ne trouve pas d'autres moyens pour me faire entendre. À la violence d'État, je réponds à ma manière, une forme de violence politique. Et donc, vous aviez Vouanvelin en octobre 90, un jeune mort, Thomas Claudio, lorsque une voiture de police, alors qu'il était à l'arrière d'un scooter, le renverse. Il décède pendant plusieurs jours. Mantes-la-Jolie, deux jeunes, une femme policière, mai 1991. Sartrouville, mai 91. Évreux, faudrait peut-être voir si Toulouse, mais je pense que Toulouse a dû se passer des choses. Grigny, etc., etc.
98.
Mais bon, on est dans cette périodicité-là. Et l'État, cyniquement, comme il a fait appel au consulat du Maroc pour faire retirer le voile à ces jeunes filles-là, va solliciter les dignitaires religieux pour calmer les jeunes. C'était comme ça que c'était dit. Et donc, moi, je cite un exemple. Contre les violences, hein, et contre les trafiquants de drogue. Et donc, il se passe quelque chose de très intéressant. Dans le quartier des Biscottes à Lille, j'ai trouvé des articles de presse, le Coran contre la seringue. C'est-à-dire que, vous voyez... Finalement, le Coran, c'est pacificateur, quoi. Donc, regardez tous les religieux qui font la chasse aux dealers. Ces gens-là, ce sont des gens bien, quoi. Mais encore une fois, on réduit les individus à une identité altérée. C'est-à-dire qu'ils ne sont toujours pas français, hein, d'accord ? Mais il faut surtout ramener la paix civile. Voilà. Donc... quand on dit que l'islam est devenu... dès lors qu'il y a des illusions, etc. Je cite par exemple Nissar Sassi, qui est un jeune qui était à l'époque, qui avait 21 ans, qui est le premier, avec Mourad Benchelali, à aller en Afghanistan en 2001. Et il raconte, il me raconte comment il s'est retrouvé là-bas, sous l'égide d'Al-Qaïda, et comment... Mais il est allé en Afghanistan, il me dit, comme il aurait fait un go-fast. C'est-à-dire que pulsion de mort pour pulsion de mort, autant aller en Afghanistan. Mais ça raconte finalement en creux toute la tragédie de ces individus. Toute la tragédie. Je passe, après on pourra en discuter. La politique de la ville, ça n'a de politique que dans son intitulé. C'est une opération uniquement pour contenir. D'ailleurs, on l'a vu, hein, pour moi, le basculement, ce sont les opérations de rénovation urbaine. Et je trouve ça extrêmement... drôle quand j'entends que Jean-Louis Borloo est un individu qui a fait beaucoup pour les quartiers populaires. On regrette Jean-Louis Borloo. Pourquoi Macron ne l'a pas écouté? Heureusement qu'il ne l'a pas écouté. J'ai pas dit qu'il aurait fallu qu'il écoute pas d'autres, mais la rénovation urbaine s'est actée finalement en plus de la guerre policière dans ces quartiers, c'est la guerre sociale. C'est-à-dire que la rénovation urbaine, elle s'est faite au prix de la reconfiguration des quartiers populaires à travers les stratégies de reconquête policière de ces territoires-là. Bon, j'avais écrit ça dans Opération Banlieue, je recite. Le bilan de Jean-Louis Borloo, c'est un bilan finalement extrêmement négatif. La rénovation urbaine, elle a réglé aucun problème, elle a uniquement participé d'une stratégie de contention, c'est tout. Et donc la politique de la ville, effectivement, c'est un dispositif... comme je cite un moment, je tombe sur des archives, sur Michel Rocard, qui avait voulu mettre, quand il était Premier ministre, il a voulu instaurer, mais quelques temps avant, après il se fait débarquer au profit de Cresson, donc il perd son poste de premier ministre, des médiateurs interculturels dans les quartiers. En fait, il s'agissait de montrer que, de faire que les Arabes dans ces quartiers, leur montrer aux Français, alors qu'ils sont tous Français, encore une fois, ces gens-là ne sont pas ceux qu'on croit, quoi. Il faut faire vraiment ami. On va vous montrer qu'ils sont gentils, on va vous montrer qu'ils ont aussi des bonnes mœurs, on va vous montrer. Et donc, les médiateurs interculturels, ce sont un peu les mêmes médiateurs pendant la guerre d'Algérie. Et l'histoire, elle a des résonances extrêmement troublantes. Et elle raconte que derrière les bonnes intentions, on interprète toujours négativement ce qu'on ne veut absolument pas voir dans l'espace commun. Donc les médiateurs interculturels, moi je fais pas de rapprochement. J'ai toujours contesté les rapprochements quand on me disait oui, mais les quartiers populaires, c'est comme Gaza. Moi, j'ai eu des occasions de recherche. Je suis allé là-bas. Il faut savoir ce que c'est qu'un checkpoint. Il faut avoir expérimenté une fois dans sa vie un checkpoint pour oser rapprocher la comparaison. Je parle de contention policière, mais il ne faut quand même pas se gaver de mots, quoi. Et de la même manière, quand on dit il n'y a jamais eu en France, il n'y a pas d'État raciste. Il y a un État inégalitaire. Une nuance. Il y a des traitements inégalitaires. D'accord ? Il n'y a pas d'État raciste. Il y a un État, finalement, qui n'a jamais considéré ses quartiers populaires, les habitants des banlieues populaires, comme étant des individus qui soient citoyens comme les autres. Il n'y a jamais eu de politique visant à lutter efficacement contre les discriminations. Il y a eu des tentatives, il y a eu des intentions, mais tout ça, c'est à la marge. Tout ça, ça ne participe pas d'une ambition politique. Et donc, dès lors, on peut se poser la question, et je finis mon propos, je suis très très long, mais désolé. Tout ça, ça raconte quoi ? Ça raconte quoi ? Et c'est pour ça que je finis en disant que moi, je ne vois qu'une seule hypothèse. D'ailleurs, j'avais titré, j'ai fait un article dans la revue Esprit qui est paru dans le numéro de mars. J'ai écrit et je maintiens, les banlieues populaires ne voteront plus. On pourra dire après, méfiez-vous de quand les médias vous disent les musulmans ont voté. Attention à ce que les quartiers populaires ont voté. Comparons ce qui est comparable et regardons les choses dans les faits. Il n'y a aucune étude qui a été faite. Quand on vous donne une information 24 heures après un scrutin en vous disant voilà comment ça a voté, comme disait Bourdieu, la sociologie est un sport de combat, eh bien la recherche c'est aussi un sport de combat. C'est-à-dire qu'on observe les choses dans la durée, on observe les choses telles qu'elles se sont déroulées. D'accord ? Et moi je peux vous donner plein d'éléments effectivement, Mélenchon, les gens ont voté beaucoup plus pour lui, mais le taux d'abstention il est énorme. Et quand je regarde par bureau, parce que c'est ça qu'il faut regarder, pas à l'échelle de la ville, on regarde par bureau de vote. Et par bureau de vote, moi je peux vous dire par exemple, au Val-Fouré, il y a des coins où il y a 60% de gens qui n'ont pas voté. Oui, Mélenchon est arrivé en tête. Après, je ne parle pas du vote de Mélenchon en tant qu'individu. Hein. Quand on dit regardez, il y a eu une mobilisation populaire. Il n'y a que celui qui veut croire, s'illusionner, qui regarde les choses telles qu'elles sont. C'est tout. Et donc, je pense, et j'espère me tromper, mais bon, après tout, faire de la recherche, c'est questionner les faits sociaux, mais ça n'empêche pas, finalement, de s'aventurer assez rigoureusement dans des hypothèses. Je pense que, quelle que soit la ville, les grandes métropoles, on se dessine vers un scénario où les métropoles, finalement, seront des métropoles de l'entre-soi. Moi, quand je viens ici, quand je me promène ici, je n'ai pas l'impression, je me balade dans un territoire hyper ségrégué, hein, Oui, effectivement, c'est une ville populaire, Toulouse. Mais une ville populaire, ça ne fait pas une ville socialement mixte. Hein. Je suis désolé. C'est se leurrer. D'accord. Je pense qu'on aura des villes, des métropoles qui seront des villes, ce que moi j'appelle des machines à cash sociales. Hein, les élites, les classes sociales aisées. Évidemment, ça n'empêche pas qu'il n'y ait pas de classe moyenne. Vous aurez en bordure toutes ces communes populaires avec des quartiers, mais pareillement. Je pense qu'on s'aventure, que ce soit à Grand Paris, Grand Lyon, Grand Toulouse, tout ça, avec des niches. Hein. Je regardais là à Marseille. Marseille est la ville la plus inégalitaire de France. Le nombre de résidences fermées, mais c'est juste incommensurable. C'est inimaginable. Je vois ça uniquement aux États-Unis ou dans les pays d'Amérique latine. Donc, résidence fermée, c'est-à-dire que vous aurez cohabitants dans des anciennes communes populaires, des villes avec des quartiers uniquement de populations aisées, ce que moi j'appelle les communes de l'identité du même social, et avec des quartiers, parce qu'on ne peut pas non plus virer très loin tout le monde, donc des ghettos de pauvres. Voilà. Je conteste les ghettos ethniques parce qu'on ethnicise. Mais quand on dit ghetto ethnique, c'est-à-dire qu'on écrase les individus par une volonté. Non, les gens, ils n'ont jamais dit, moi, je veux vivre avec uniquement des Arabes ou des Noirs ou des Vietnamiens. Non, les gens, le peuplement, il n'est pas l'affaire des individus, il est l'affaire des institutions. D'accord ? De la même manière qu'au départ, ils étaient des concentrés de pauvres, de concentrés d'immigrés. Ben voilà, c'est comme ça. D'accord ? Donc, et je pense que ça sera... On va faire cohabiter dans les premières couronnes des résidences fermées ou des espaces voilà, sociologiquement d'élite avec des ghettos de pauvres. Et derrière... Ça, moi, je le vois avec le Grand Paris, c'est imparable. Je suis à Montfermeil, j'ai connu Montfermeil en 2006, et là, j'y retourne. Effectivement, Montfermeil, c'est en Seine-Saint-Denis. Les Bosquets, tout ça, ils ont tout rasé. Je connais parfaitement le maire, qui est proche de l'extrême droite, hein, Xavier Lemoine. Les gens sont très contents, les familles maghrébines, elles sont très, très contentes. Très contentes. C'est calme, ça sent pas mauvais, c'est très, très bien. Mais elles sont pas dupes. Elles sont pas dupes. Quand elles disent c'est bien, c'est-à-dire qu'elles se disent on est dans un environnement qui nous valorise. Or, qu'est-ce qui se passe ? Tous les programmes de logement, d'accession à la propriété, pour lesquels le maire avait rêvé que les Français, ceux que lui veut, viennent un jour, sont occupés par des jeunes, par des familles d'origine immigrée ou immigrée. Parce que les promoteurs immobiliers, ce ne sont pas des crétins. Ce sont des capitalistes. Ils fabriquent des logements et ces logements ne peuvent pas rester vides. Et ils sont même très chers. La banlieue parisienne, ce n'est pas donné. Et j'imagine que Toulouse, c'est pareil. Donc, qui va habiter dans ces lieux-là ? Les jeunes qui ne veulent pas être trop loin des parents, qui habitent dans les anciens bosquets ? Ou des gens qui veulent quitter le quartier, qui n'ont pas les moyens et qui se disent, voilà, c'est un entre-deux. Voilà. Parce que le constat, il est là. Dans une France dont l'espace social est racialement organisé, dans une France, finalement, où l'identité est devenue finalement, le fil conducteur des relations humaines, des relations sociales, eh bien, le territoire, la ville, en fait, elle raconte comment les relations entre les individus. Et donc, Montfermeil, c'est devenu une commune où, si le maire donnait une autorisation pour une troisième mosquée, eh ben, il y aurait suffisamment de pratiquants pour une troisième mosquée. Et pour une quatrième. Et voilà. Tout ça, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de musulmans. C'est-à-dire que les individus sont empêchés d'aller vivre à Paris comme ils le voudraient. Ils sont empêchés d'aller ailleurs. Dès lors que vous êtes en butte à des discriminations, eh bien, finalement... Eh bien, le meilleur moyen de valoriser votre réussite sociale, c'est d'aller dans l'accession à la propriété dans votre commune. Et ça, donc, quand on dit les discours de l'extrême droite, ou j'inclus tout, moi, hein, zémourien, pas zémourien, peu importe, ou ces discours, finalement, qui ethnicisent, que finalement, oui, le problème des quartiers, c'est quand même les gens, ils veulent pas partir. Les gens, quand même, il y a aussi des problèmes de cohabitation. Pas du tout. Je suis pas naïf en disant ça, mais je dis pas du tout. Un problème politique, on le règle politiquement. Si on le règle pas, c'est que finalement, chacun y trouve ses avantages. De toute façon, Xavier Lemoine, le maire de Montfermeil, me dit. Moi, de toute façon, à partir du moment, il y a un quartier qui s'appelle Franceville, c'est le hasard. Hein. À partir du moment Franceville vote pour moi, à partir du machin ils votent pour moi, à partir du moment les responsables de la mosquée, je leur donne une autorisation parce que ça marche beaucoup par le clientélisme, donc ils votent pour moi. Tous ceux qui contestent ma politique, tous ceux qui dénoncent finalement les rapports raciaux, ils seront toujours minoritaires parce que la grande majorité de ces gens-là ne votent pas. Merci.
Bah juste, comme j'ai le privilège d'avoir le micro, mais bon, merci beaucoup, Hassen. Moi, tout de suite, je partage grand nombre des constats que tu fais, en fait, des analyses, hein, pas des constats, des analyses et de ce que tu as produit. Mais bon, comme on n'a pas beaucoup de temps, je fais tout de suite sur un truc qui me gêne un peu dans ton propos. C'est l'absence des habitants en tant qu'acteurs de leur vie. L'absence des habitants en tant que... Quand tu, par exemple, quand tu t'y rentrais de 83 à 2005, de l'histoire politique des quartiers, mais au sens de l'histoire militante, sociale, hein, je veux dire, il s'est passé énormément de choses. Et finalement, même si, finalement, comme dans d'autres parties de la... De ce pays ou de la société française, c'est une minorité. Les militants, ceux qui font de la politique, activement, je veux dire, au-delà de voter, c'est une minorité. Donc, voilà, j'ai ce sentiment-là, c'est un petit peu... Voilà. L'absence aussi, peut-être, quand même, de... Et c'est aussi un instinct de survie, au-delà des mécanismes que je conteste pas, hein, sur l'ubérisation, par exemple, ou la religion, mais des mécanismes de solidarité, d'entraide, qui sont bel et bien réels, c'est-à-dire avec des initiatives qui sont celles des habitants et des habitantes de ces quartiers, qui, pour faire simple, c'est souvent le milieu associatif, le milieu de l'économie sociale et solidaire, souvent un petit peu soutenu, très, 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 très faiblement soutenu par la politique de la ville, on est bien d'accord, mais qui fait que ça génère quand même de l'activité et de l'activité sociale au-delà du boulot. Hein, voilà. Et puis, dernier point, peut-être, j'avais évoqué au départ, parce que quand tu dis, certes, la participation électorale, elle est faible. Moi, je trouve quand même qu'il y a eu quelque chose d'intéressant qui vient de se passer. Et là, pour le coup, je suis assez d'accord avec... je trouve que ça pose bien les choses. On a eu vraiment, à Toulouse, l'effet bureau par bureau. Hein, donc, si on peut parler de Toulouse, mais bon, on va généraliser. Mais on a eu des taux de participation qui étaient plus bas, certes, mais pas beaucoup plus bas que la moyenne nationale. Et pas pour beaucoup plus bas que la moyenne à Toulouse. En gros, taux de participation générale, on était à 65% à peu près, un petit peu plus. Dans les quartiers, Mirail, Izard... Après, on peut rentrer bureau par bureau. Effectivement, il y avait des bureaux... Bon, on était à 60, 62, donc bon, ça fait 5 points d'écart. C'est important, mais...
40% voilà.
Voté. Oui, mais 40% en France qui n'ont pas voté.
Oui, non, mais là, je parle de bureau.
Oui, mais je veux dire, c'est la même... Donc, oui. Du coup, non, mais là, il y avait... À d'autres élections, aux législatives, je pense que ça va être beaucoup plus. Hein, mais je ne vais pas ouvrir le... C'est juste pour dire que malgré tout, je trouve, moi, qu'il y a eu un vote de classe, un réflexe de classe sociale. Et c'est ça que je trouve d'intéressant et qui est porteur de, pour moi, malgré tout, d'espoir politique, mais du côté des habitants, du côté des gens. La plupart, il y a des choses très, très importantes que tu as dites sur la question des archives au début, que je partage tout à fait. Pas seulement, par exemple, Juste, je fais une parenthèse, mais je trouve que ça l'illustre bien, c'est édifiant. C'est les archives de la politique de la ville elle-même, pas seulement des communes. C'est-à-dire, bon, sans rentrer dans des trucs trop techniques, ou enfin trop, bon, parce qu'on baigne là-dedans, donc, hein, mais les institutions spécifiques, donc hors du droit commun, qui ont géré la politique de la ville, les archives du FAS, de tous ces trucs-là, facile, CGET, tout ce qu'on veut, on ne sait pas où elles sont, hein, je veux dire, bon. Tu parlais du CNC, qui a aidé avec la commission Images de la diversité de nombreux films. On ne sait même pas les films eux-mêmes aidés par le FAS. Voilà, il y a pour bon nombre, ils sont par pertes et profits quasiment. On a, je veux dire, puisque, voilà, moi, je ne vais pas rentrer dans ce. C'est un sujet qui nous tient à cœur, là, puisqu'on travaille beaucoup sur les archives audiovisuelles. Et voilà. Mais bon, voilà, juste pour mettre ce sujet de discussion entre nous à ce moment-là. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres gens qui veulent.
Alors, juste, attention, hein, quand on fait une histoire politique, il ne s'agit pas de dire que tout est à jeter. C'est juste que, voilà, j'ai voulu trancher. En fait, c'est un livre politique pour moi. Ce n'est pas un livre, finalement, qui va commenter, mais c'est un livre, finalement, qui... vous savez, quand on dit le couteau... Voilà, c'est l'image du couteau dans la plaie. C'est-à-dire que stop. Voilà. Je dis pas qu'on peut pas discuter, etc. Évidemment, il y a des associations qui se battent. Évidemment, même je vois Montfermeil, je vois voilà. J'ai pas dit qu'il se passait rien. Il y a pas de. J'anime des ateliers d'écriture. J'ai fait des documentaires avec des jeunes dans le cadre de cette résidence d'écrivains. Je ne dis pas qu'il se passe rien. Ce que je dis, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est la politique, parce que la politique, c'est la gestion de la cité. Et quand dans la cité, finalement, on a entretenu des illusions, pour finir par désillusion en un mot, c'est un titre à la Libération, ça, c'est pas bon, ça. Je trouve que c'est... Vous voyez, quand j'étais aux États-Unis, au moins aux États-Unis, c'est clair. C'est clair. Je n'ai jamais vu des blancs avec des noirs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Mais ça veut dire, en plus, on peut pas comparer, parce qu'il y a une chose qui contrevient à toute comparaison hâtive, c'est qu'il y a eu des décennies d'esclavagisme. Ça change tout. Ça change tout dans les rapports sociaux. D'accord ? Après, la colonisation, elle aussi, elle interfère. Mais en même temps, au moins aux États-Unis, je ne promeus pas le modèle américain. Pour moi, il est absolument pas à promouvoir. Mais il livre des choses, finalement, qui sont... quand je suis pour faire des conférences dans un campus qui s'appelle Sleepy Rocks, je ne vois que des blancs, des drapeaux de Trump, etc. etc. Quand les médias vous disent « Trump, c'est fini », allez, il vaut mieux aller voir la réalité. On pense, voilà, il faut jamais. Ça ne veut pas dire que les médias, c'est à jeter. C'est juste que méfiez-vous. La réalité sociale, c'est celle qu'on observe. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, voyagez, allez voir ailleurs, etc. Lisez, etc. Tout ça. Si vous êtes uniquement la lecture, c'est uniquement sur Internet ou ce que les médias vous, ou BFM ou peu importe que vous disent. Je trouve que c'est c'est insuffisant. Par contre, effectivement, il y a des gens qui se battent, il y a des gens qui font des choses, il y a des gens, voilà, d'accord. Mais en même temps, sur le plan politique, il faut être très clair. La France, l'État français, finalement, a abandonné les quartiers populaires dès le début. Dès le début, c'est pour ça quand tu citais cette note de Pierre Saragoussi, je tombe sur cette note de Pierre Saragoussi de 83. Il était directeur de cabinet, il était conseiller technique du directeur de cabinet de Pierre Mauroy, Robert Lion. Et Saragoussi, dans la note, il dit c'est la dernière chance. Et encore, c'est même pas sûr qu'on réussisse. 1983. C'est-à-dire que voilà un type qui a finalement senti que telle la façon avec laquelle les choses elles étaient en train d'évoluer, la gauche au pouvoir depuis 2 ans ne répondrait pas à ce défi. Et la droite, de toute façon, la droite a toujours été très claire. Et c'est pour ça que j'ai inventé cette notion. Il faut bien à un moment conceptualiser. Pour moi, la droite, elle a inventé ce que j'appelle la ville décomplexée. La ville décomplexée, c'est le rapport de Fadela, Saïd Aïssa Dermouche, c'est la ville décomplexée, finalement, c'est la ville qui assume la discrimination. C'est la ville qui assume le traitement inégalitaire. Elle l'assume et ça ne lui pose aucun problème. Il s'agit pas, après, on peut pas, pourquoi demander à la gauche de faire plus? Parce que, sur les questions idéologiques, sur le rapport aux quartiers d'habitat sociaux, on observe les mêmes choses. Hier à Cahors, après la présentation, en fait, il y a un film documentaire, allez le voir si vous avez l'occasion, qui s'appelle En nous. Qui est sorti en salle il y a quelques semaines, et le problème du cinéma c'est que les documentaires ça reste pas très longtemps en salle, et donc il y avait le responsable, un responsable communiste, et les organisateurs m'avaient dit, il est venu voir le film mais il ne va pas rester parce qu'il a lu ce que tu as écrit sur le PC et il n'est pas content. Bon ben, il est parti, c'est pas grave qu'il soit pas content, mais ce qui est grave finalement c'est que on instrumentalise des lieux comme on instrumentalise le périurbain. Ben voilà, c'est attention, regardez les gilets jaunes, on donne beaucoup aux banlieues, hein. D'ailleurs la France du périurbain, regardez, c'est une France qui souffre, etc. Et le racisme anti-blanc et le oui, mais il faut être honnête, quand tu l'as vu en nous, c'est voilà, les choses, elles sont limpides. Moi, je n'ai rencontré personne. Quand j'ai fait mes entretiens dans ma recherche sur la résilience sociale, j'ai rencontré des gens qui avaient des réussites, mais éclatantes socialement, qui avaient mais vraiment des vies accomplies. Et je fais des entretiens et on était aux attentats du Bataclan. Et il y en a un qui me dit, tu sais, je dirige une division à l'échelle de l'Union européenne de ma boîte. Il y a un type qui arrive, un Français. On parle en anglais, etc. Il y a un Français qui vient, voilà. Il était dans il vient de Wallonie ou je sais pas quoi. Et il me regarde, il me dit, dis-moi, tu penses pas que ça serait bon avec des macroutes ce que tu as fait là, ce qu'on est en train de déjeuner? Mais l'autre, tu dis, mais il dit non, mais non, mais ne le prends pas mal, hein. Mais les Arabes, c'est l'autre. Il avait un poste. Au-dessus. Et il me dit, en discutant avec... Les autres ne comprenaient pas, les autres interlocuteurs allemands, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit, je comprends tout le temps que en France, c'est... T'es de quelle origine? Au bout, tu viens d'où? Moi, individu à Seine-Belle-Messouze, je n'ai jamais eu de problème. J'ai pas de soucis. Mais je ne vais pas mesurer la réalité sociale en fonction de moi. Je mesure la réalité sociale en fonction de ce que j'observe. Et ce que j'observe, c'est que les quartiers populaires sont l'angle mort de la vie démocratique française.
Mais, bon, moi, je vais te donner un exemple, puisque en 2001, quand j'ai été élu à Toulouse, dans l'opposition, et il y a eu, au mois de mars et au 11 septembre 2001, il y a eu, il y a eu les attentats, quoi, des World Trade.
On t'a demandé ce que tu en pensais, c'est ça?
Non, c'est bien pire. Il y avait un rassemblement en place du Capitole, tous les élus de la ville étaient convoqués. Mais c'est véridique ce que je raconte. Parce que ça a été choquant. Et donc, moi, j'y vais parce que j'étais le seul élu d'origine maghrébine, on va dire. Hein. Je suis né en France, tout ça. Mais bon, bref, du conseil municipal de Toulouse à cette époque-là. Donc, mais c'était un peu, nous sommes tous américains, tout ça. Donc, j'hésitais un petit peu. Je disais, moi, nous sommes tous américains. Moi, je suis un peu gaucho sur les bords. Donc, et bon, j'y suis allé, je me suis dit, si j'y vais pas. Et j'y suis allé, et il y a un monsieur qui est venu me voir, qui m'a dit, qui était président, bon, une institution toulousaine, je ne vais pas rentrer, qui m'a dit, j'ai dit, voilà, c'est malheureux, on était tout là. Bon, c'était. Il m'a dit, mais vous déconnez quand même. Et c'est véridique. J'étais. Ah! J'ai dit, mais je sais pas, moi je le connais pas, le type de l'avion là.
En fait, on est toujours, et après j'espère qu'il y a des questions dans la salle. En fait, tout est la question de, à chaque épreuve dans une société, il y a ce qu'on appelle le soupçon de loyauté. Le soupçon de loyauté, c'est, est-ce que tu es vraiment français ? Est-ce que tu es, et c'est ça, quoi. Et je pense que c'est pour ça que je suis pas, oui, je suis pessimiste, oui, je suis, mais je suis pas démagogique. Je suis, il faut observer les choses telles qu'elles sont. Il y a encore, quand je dis angle mort, c'est-à-dire que, il faut quand même jamais oublier que la politique de la ville, c'est pas Toulouse, c'est pas Marseille. La politique de la ville, c'est Laval, c'est Cahors, c'est Saint-Brieuc, c'est la plus. Aujourd'hui, c'est aussi ça, quoi. C'est une politique finalement qui, c'est une politique de compensation. Voilà. Et donc sur et qui de compensation quand à travers une approche territoriale. L'approche, elle n'est pas des individus. On va pas donner la politique de la ville. Elle ne donne pas de l'argent, du moins ce dispositif-là, parce que il y a X% d'Arabes, X% de Noirs, X% de... Non. On parle d'égalité territoriale. D'accord. Or, quand on parle de politique de la ville, quand vous lisez ou dans les médias, ou les élus quand ils en parlent, c'est soit la Seine-Saint-Denis, soit les quartiers du nord de Marseille, soit la banlieue lyonnaise, et vous n'aurez jamais d'article sur la politique de la ville à Versailles, parce qu'il y a un petit quartier que je connais qui est terriblement inégalitaire et dans lequel il y a des grandes souffrances sociales, mais vous n'irez jamais là-bas parce que Versailles, c'est la France aristocratique, c'est la France, voilà, ce sont les élites, etc. Donc, on est encore une fois dans ce que j'appelle une vision monolithique. Et or, ce monolithisme-là, eh bien, il fige une situation. Et donc, et je finis pour... les quartiers populaires, c'est pas une affaire française. Pour reprendre un titre d'un bouquin, un vieux livre d'Éric Zemmour. Il faut toujours citer ses sources.
Oui, donc, bon, j'ai bien aimé votre exposé, parce qu'effectivement, bon, moi, étant dans le bâtiment...
J'aime bien Alternativa aussi.
Oui, non, mais voilà, étant dans le bâtiment, j'étais confrontée justement à cette ségrégation sociale qui existe, quoi. À Toulouse, malheureusement, on a un maire qui, pour lui, le business, c'est l'immobilier. Donc, à partir de là, on fait partir... on démolit des bâtiments qui sont super bien, qu'on pourrait rénover, qui en termes écologiques seraient bien plus favorables. On rénove, nous on préfère détruire pour qu'on reconstruire. Et c'est vrai que cette politique de la ville, c'est aussi la politique d'urbanisme qu'il y a aujourd'hui, qui est menée par les grands lobbies économiques, parce qu'en fin de compte, on est dans un monde, pour ma part, et c'est pour ça que je voulais savoir aussi comment vous le voyez à l'heure qu'on vit actuellement aujourd'hui. Parce qu'on vit dans un monde actuellement qui est malmené, mais très malmené actuellement. La France est très malmenée parce que nous avons une dictature. Enfin, il y en a qui ne veulent pas dire que c'est une dictature. Nous vivons actuellement un monde très autoritaire qui fait qu'il y a une partie de la population qui a été suspendue à cause des décisions qui ont été arbitraires, qui ont été prises par rapport au pass sanitaire, parce que ça, il faut ne pas l'oublier, parce que ça existe toujours, quoi. On dit toujours, on dirait qu'il n'y a plus rien, alors qu'en réalité, il y a plus de 26 000 ou 15 000 soignants qui sont actuellement exclus des soins pour ça. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en réalité, ça montre que la santé aujourd'hui, qui est pour moi un moyen de rendre l'égalité à tout le monde, elle n'existe plus du tout. Puisque par ce biais-là, aujourd'hui, on est rentré dans un moment où vous avez parlé des résultats. Mais moi, déjà, je n'ai pas confiance aux résultats qu'ils nous ont donnés. Parce qu'il y a une fraude massive, non mais il faut le dire aussi, il y a une fraude massive qui est organisée par une population, pour une population qui est absolument corrompue. Et à tous les niveaux, il y a une corruption qui fait... dont nous, en tant que population, parce qu'il faut quand même se dire qu'on ne peut plus accepter la manière... Parce que quand vous dites tout le monde est discriminé, mais il n'y a pas que les musulmans ou les maghrébins et tout ça qui sont discriminés. C'est toute la population qui est discriminée aujourd'hui, parce que vous avez la population qui a accepté la vaccination et ceux qui ne l'ont pas accepté. Mais ceux qui ne l'ont pas accepté, ils sont exclus de la société aujourd'hui. Bon, voilà. Donc, non, mais pour moi, je considère...
C'est juste pour qu'il puisse répondre.
Voilà. Oui, voilà. Parce que moi, à ce jour, je trouve qu'aujourd'hui, il faut être optimiste et penser que c'est ensemble qu'on va s'en sortir et ce n'est pas en discriminant la population. Si aujourd'hui, on en arrive à ce stade-là, c'est parce qu'on a une médias, des mainstream, ils sont là, en fin de compte, pour faire de la propagande et pour éviter que les gens réfléchissent, mais qu'ils acceptent les mensonges qu'on leur balance tous les jours. Et actuellement, heureusement qu'il y a des médias alternatifs pour qu'on puisse vraiment réfléchir.
Parce que je vous coupe, je pense, c'est juste pour qu'il... Voilà. En fait, voilà. Parce qu'on est, voilà, on a nous-mêmes été trop bavards, hein, mais c'est pour ça, et lui surtout.
Alors, madame, soit je vais dans votre sens et je me dis, je gagne une vente de livres. Et je ne suis pas démagogique. Moi, je suis vacciné, donc ou peut-être que c'est à ma charge. Par contre, moi, j'ai une fille qui est hospitalisée, et je peux vous assurer que tout ça, c'est pas de la blague. Je peux intervenir sur, oui, les effets. Le maire de Montfermeil était contre le pass, était contre le masque. Et quand je faisais des ateliers, j'avais des ateliers à un moment avec la médiathèque, elle se battait, alors qu'elle est employée municipale, de façon à ce que les choses tiennent à peu près. Je ne veux... Comment dire ? Je peux pas répondre à votre question très honnêtement sur la question du complotisme parce que dans ce cas-là, je peux répondre par une pirouette parce que vous savez ce que disent les tenants, les théoriciens du grand remplacement, on vous cache tout, on vous dit rien. Je peux comprendre, encore une fois, j'entends ce que vous dites. Je ne suis pas d'accord. C'est pas grave. On n'est pas d'accord. C'est le débat public. Je ne suis pas d'accord avec cette idée qu'on est dans un monde autoritaire. Je crois que vous avez oublié, si mai 68 s'est enclenché, rappelez-vous ce que c'était que la France autoritaire. Il n'y a jamais eu d'âge d'or dans la démocratie. La démocratie, vous savez, j'ai envie de répondre par une maxime après pour passer à autre chose, mais cette maxime populaire, c'est le pire des systèmes, mais on n'a pas trouvé mieux, quelque chose comme ça. Par contre, effectivement, là où vous avez raison, c'est que la faillite organisée, parce que on a délégué un service public à des acteurs privés. On l'a vu avec l'affaire Orpea, mais comme on l'a vu, mais avec où les cantines Sodexo, etc., a révélé que dans les banlieues populaires, je m'écarte, les services publics sont extrêmement réduits. Je cite par exemple dans le livre à la Grande Borne, 15 000 habitants, il n'y a pas d'agence EDF, il n'y a pas de bureau de poste, et le bailleur social Exopivois, etc., a déménagé dans la commune voisine, alors que c'est à la Grande Borne qu'il a la grande majorité de logements sociaux, mais il est à la Viry-Châtillon qui en accueille peu, mais c'est un peu plus résidentiel. Il y a très peu de médecins. Après, c'est toujours les gens qui reçoivent des colissimo, eh bien, ils sont pas distribués, ils doivent aller à la poste dans le village parce que voilà, ils viennent pas. D'accord. Ce sont des lieux de toute façon qui ont été désertés par les services publics. Il y a peu de médecins, etc. Les choses, elles sont, mais comme on le voit, là, je vous donne raison, dans l'espace rural. D'accord. Mais après, dire que mon livre, madame, c'est pas un livre pour dire oh, pauvres Arabes, pauvres Noirs, pauvres machins, ils sont discriminés plus que les autres. Non. Moi, mon approche, encore une fois, elle est politique. D'accord. Qu'est-ce qui fait que les grands ensembles, qu'est-ce qui fait que les quartiers populaires, les banlieues populaires sont l'objet, finalement, d'un discours à charge et est-ce que cette situation-là, elle découle d'une dérive sociale? Parce que le politique n'a pas été en capacité. En gros, est-ce que ce sont ces catégories-là qui ont été le tombeau des quartiers populaires? Non, ces quartiers populaires sont dans cette situation-là, parce qu'il y a eu une faillite, une démission politique organisée dès le début. Point.
Je voudrais revenir sur... vous avez entamé un petit peu par rapport à Roubaix. C'est une ville qui est en pleine gentrification par rapport à la culture, etc. Le maire met en place des politiques de la ville qui donnent envie aux populations vivant à l'extérieur de Roubaix de venir vivre à Roubaix. Et du coup, je me demandais si vous avez des clés de réponse, peut-être. Comment ces deux populations qui n'ont pas le même quotidien, qui n'ont pas la même vie, vont faire pour vivre ensemble, en fait, dans ce même territoire-là qui est très déchiré.
Pas besoin d'aller à Roubaix. Je regardais, je vous parlais d'Aubervilliers. Aubervilliers, il y a un théâtre national, le théâtre de la Commune, qui existe depuis. C'était sous Ralite, hein, qui avait été Jacques Ralite avant qu'il soit ministre de la Santé en 81, en V, on revient en 81, mais qui était un vrai acteur, voilà, quelqu'un qui a un vrai promoteur de la culture, de l'éducation populaire. Eh bien. Il y a évidemment tout un travail qui est fait, hein, ou à la condition publique, pour revenir à Roubaix. Il y a tout un travail qui est fait, j'allais dire, d'accès à la culture. C'est comment on fait un lieu comme ici, par exemple. Comment est-ce qu'on fait quand on est dans une librairie pour faire en sorte que la lecture publique soit l'affaire de tous? Est-ce qu'il faut faire des thématiques dont on se présuppose qu'elles pourraient attirer les gens? Ou est-ce qu'il faut des... c'est en général, attention, on est très sérieux là. Je suis très sérieux, pardon. Mais c'est parce que c'est valable à tout, en tout, quoi. Est-ce que... ou on peut le voir, hein, dans les maisons de la danse, hein, les centres nationaux, ou les centres... voilà. Est-ce que dans les années 90, plutôt 2000, on va faire du hip-hop, hein, parce que peut-être que le hip-hop, c'est une façon de... La danse hip-hop, c'est une façon de faire venir des gens. On revient à Vau-en-Velin, Pokémon Crew, champion du monde de, hein, ceux qui connaissent. C'est pas parce qu'il y a les Pokémon Crew à Vau-en-Velin que ça a fait des danseurs de hip-hop. Hein. Ça n'a pas fait de danseurs de hip-hop. Ça fait que ceux qui aimaient le hip-hop ont fait du hip-hop. Ils se sont professionnalisés. Ils ont fait des tournées, etc. Applaudis par ceux qui habitaient le quartier, mais ça n'a pas fait des danseurs supplémentaires. Ça n'a pas fait des gens qui sont allés à Lyon, à la première biennale de la danse en France. Ça n'a pas fait des gens qui vont plus à la Biennale de la danse, ça n'a pas fait plus des gens. Tout ça, c'est du leurre. Et donc, effectivement, c'est pour ça que l'éducation populaire, c'est très important. Et ça, c'est l'échec, pour le coup, de la gauche, puisque la gauche, elle a porté ce discours-là. Qu'est-ce qui fait que l'invention culturelle, qu'est-ce qui fait que les expérimentations sociales, tout ça, finalement, s'est achoppé. Je peux en parler très tranquillement. Les ateliers Médici, vous avez plein de photographes, des artistes, des gens qui viennent du monde entier et qui font des choses avec des habitants. Par exemple, ils disent « Mais on a du mal à voir les habitants, etc. » Mais je leur dis, je pense, alors, faut toujours éviter de ne pas paraître pour un donneur de leçons, mais c'est comme quand on fait de la recherche, vous arrivez dans un endroit et les gens vous disent « Ah oui, mais vous êtes le 40e chercheur qui est venu. » D'accord, ça ne sert à rien, puisque la personne, il y a ce qu'on appelle cette notion de répétabilité. On sait ce que vous attendez. Parce que finalement, et quels que soient finalement les domaines, c'est-à-dire que les gens ne sont absolument pas dupes, ils ne sont pas naïfs, ils ont cru que ça allait changer quelque chose. Mais ils n'y croient pas. Et juste, c'est vrai que le CNC, je fais partie de cette commission nationale, on a... Il y a un vrai problème. Par exemple, un problème d'écriture. Quand moi, je vois les projets qui sont proposés, que ce soit Arte, Netflix, etc., le jeune de banlieue, quand c'est les quartiers populaires, le jeune de banlieue ou les immigrants qui ont quitté, qui sont passés partie du Maroc, passés par je ne sais pas où, qui arrivent à Barbès, la gamine, elle fait le tapin. On multiplie les stéréotypes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas traiter les choses aussi par ces angles-là. Ça veut juste dire que finalement, ça ne fait pas d'écriture nouvelle. Or, il y a les possibilités de faire émerger des écritures nouvelles. Mais ce n'est pas parce que c'est les banlieues. Effectivement, le rap, c'est la musique la plus vendue aujourd'hui en France. D'accord ? Est-ce que c'est mieux ? Moi, je dirais non, mais ça, c'est une question de goût. Mais ce que je veux dire par là, c'est que...
pas une question de goût, j'ai l'impression.
Bah, moi, j'ai des souvenirs d'avoir vu une thème au Palais des Sports en 1995 ou même à IAM. Je trouvais qu'il y avait une écriture. Ça répondait à l'urgence de l'époque, voilà. Et je trouve que, mais après c'est des questions de goût. Je trouve qu'Aurel San, c'est très bien écrit, mal chanté, mais ça c'est une autre chose.
C'était Rencontre avec Hassan Belmessous autour de son livre Petite histoire politique des banlieues populaires, paru aux éditions Sileps. Thank you.
Radio Livre de Rome.